Bonsoir. Un seul thème au menu de la tribune de ce soir, à savoir la situation sécuritaire au Nord Kivu, les affrontements repris ce vendredi matin entre les combattants Wazalendo et les rebelles du M23 sous l'axe Chacha-Bweremana, un peu au sud de la cité de Sake, dans la chefferie de Baoundé, territoire de Masisi. La situation reste tendue et entraîne des déplacements massifs de population qui vivent dans des conditions très précaires. Participe à l'émission de ce soir Alain Botoko, journaliste, photographe indépendant, patron du média info-verte.net. Bonsoir Alain Botoko.
Bonsoir Kelly, bonsoir aux auditeurs qui nous suivent ce soir, mais aussi à John et à Pascal qui sont avec nous dans cette émission.
Pascal Kembala, journaliste à la radio Biwan, émettant depuis Kinshasa. Pascal Kembala, bonsoir.
Bonsoir Madame Kelly, merci beaucoup pour l'invitation, c'est pour la deuxième fois que je participe à cette émission, merci beaucoup.
Depuis Benyonor Kivu, John Kanyunyu, journaliste et correspondant de la Voix de l'Allemagne, Deutsche Welle, au Nord Kivu. John Kanyunyu, bonsoir.
Bonsoir Kelly et bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de la radio Okapi.
À Benyonor Kivu, vous nous suivez sous la 92.3. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net, sur Canal+, Channel 572, sur DSTV, Canal 867. Vous avez aussi la possibilité de retrouver cette émission sur notre page Facebook. Bienvenue à tous dans votre magazine. Alors, avant d'entrer dans le vif de notre débat de ce soir, on connaît le thème, c'est la situation sécuritaire au Nord Kivu. Alain Botoko, hormis ce thème, est-ce que vous avez un autre sujet d'actualité que vous avez envie de commenter?
Oui, Kelly, merci. Je voulais commenter le sujet que nous avons mis en ligne dans notre média, celui de d'éveiller un peu la conscience de combattants de l'UDPS, parce que le membre de ce parti fêtait hier le 40e anniversaire de l'existence de ce parti, et nous avons rappelé l'historique de ce parti qui est né par une contestation de 13 parlementaires qui venaient de presque toutes les provinces, et ils ont fait vraiment un bilan qu'ils ont présenté à Mobutu dans 52 pages d'une lettre et qui a fait les tours du monde, et là ils dénonçaient tout le mal qui se faisait à l'époque, et la suite c'était que après un moment, Mobutu a arrêté presque tout le monde et ils étaient forcés, certains à s'exiler, certains à connaître des problèmes très très sérieux, et ils vont continuer dans cette lutte-là. Mobutu va à un moment céder, mais sinon le mal est déjà fait. Et là, l'UDP se retrouve avec deux partis, en fait, un seul parti, mais avec deux mouvements, un mouvement à l'intérieur et un mouvement à l'extérieur. Et c'est ce qui va continuer. Et aujourd'hui, ces deux mouvements ont tout intérêt de se mettre ensemble, ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont sortis à l'extérieur avec leur expertise et ceux qui sont restés au pays et qui connaissent aussi mieux le pays. S'ils travaillent ensemble, je crois que le président Tshisekedi peut être le plus gagnant, et les conseils que nous donnons, c'est que en tout cas que ce soit et l'UDPS qui donne le go pour sauver ce pays, pour changer ce pays. Sinon, les autres politiciens, parfois, ils visent souvent leurs intérêts et les intérêts égoïstes. Voilà.
Pascal Kembala, journaliste à la radio Biwan, émettant depuis Kinshasa.
Bon, en fait, je voulais juste parler de cette insécurité dans la ville de Kinshasa. Il y a la nuit du 13 au 14 février, il y a une famille au niveau du quartier Moyo, dans la commune de Ngaliema, qui a été victime des hommes armés avec des machettes qui sont pénétrés dans la parcelle, qui ont pillé des biens, des valeurs, se sont attaqués aux enfants. C'est-à-dire qu'il y a un problème sérieux dans la ville de Kinshasa. Vous voyez, il y a cette insécurité touche même des quartiers où on n'imaginait pas. Nous sommes Biwan est né à partir des pigeons de la commune de Ngaliema, sur l'avenue Kananga, la nuit, mais il faut être prudent pour passer. Donc les autorités, j'en appelle aux autorités, aux forces de sécurité de déployer des moyens. Il y a des zones où vous n'imaginez pas Mais il y a l'insécurité, les Kuluna qui règnent à maître. Donc, j'en appelle aux forces de sécurité de mener des enquêtes pour retrouver tous ces Congolais ainsi vite qui arrivent à endeuiller des familles. Donc, c'est très intéressant. On ne peut pas évoluer dans la capitale avec cette insécurité. J'en appelle vraiment, c'est un SOS parce que je ne vais pas aller loin. C'est que j'ai entendu de cette famille-là qui, la fille, il paraît même son enfant, l'enfant a été violé. Il paraît même l'enfant a été violé. Vous voyez à quel niveau nous en sommes avec cette insécurité dans la ville de Kinshasa.
John Kanyounou, vous intervenez depuis Beni au Nord Kivu. C'est quoi l'actualité aujourd'hui dans cette province?
Oui, il y a l'activisme des ADF, le groupe terroriste qui continue à endeuiller les gens dans la partie ouest du territoire de Beni, mais aussi en allant au nord, dans les territoires des Irumu. Il continue à gagner du terrain là-bas et kidnapper même les gens. Aujourd'hui, on nous a signalé qu'il y a plusieurs gens, plusieurs civils qui ont été kidnappés par ces ADF et emmenés avec eux en brousse. Nous en appelons à l'intensification des opérations conjointes FRDC UPDF, donc l'armée congolaise et celle de l'Ouganda, d'intensifier leurs opérations pour essayer de sauver les vies humaines. Mais aussi, comme on va parler de la situation sécuritaire dans le Nord Kivu, je voulais juste saluer l'acte d'un acteur politique de Goma, le notable Patrick Mundeke, qui, au vu de la multiplicité des déplacements des déplacés dans cette contrée, surtout aux environs de la ville de Goma, et il a assisté les déplacés en eau potable et aussi au bidon donc des jerrycans pour que les familles déplacées les utilisent afin d'éviter que les déplacés aillent puiser l'eau du lac non traitée pour éviter le choléra dans la ville de Goma avec cet afflux des déplacés dans cette ville. Merci.
Je l'ai dit dans mon introduction, la situation sécuritaire au Nord Kivu reste préoccupante. En début de semaine, on a assisté à des manifestations contre des chancelleries occidentales, mais aussi des infrastructures et autres biens de la MONUSCO dans la ville de Kinshasa. La police nationale congolaise appelle la population kinoise à vaquer à ses occupations et à ne pas céder à la manipulation. Le commandant de la police ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba a rassuré lundi 12 février que des dispositions sont prises pour que la ville de Kinshasa fonctionne normalement. La police annonce avoir interpellé des manifestants inciviques. Le général Blaise Kilimbalimba rappelle qu'on peut avoir des revendications sans verser dans les débordements. On l'écoute au micro de Babel Mpongo, Massimango.
Les dispositions sécuritaires ont été prises et après plusieurs réunions de sécurité, juste après qu'on ait ramassé des tracts dans la ville, appelant à des manifestations. Ces dispositions tiennent compte des itinéraires des manifestants et puis de leurs zones de chute qui sont les ambassades et chancelleries étrangères. Un groupe de gens voulait aussi s'amener vers les grands marchés où on passait déjà à un pillage. Heureusement, la police était déjà déployée partout là-bas. Donc, toutes les dispositions préventives ont été prises que la population continue à vaquer librement à ses occupations. Ce qu'ils peuvent observer, ça, hélas, du lieu de pleurs, c'est une expression aussi démocratique, mais nous sommes en train de réprimer tout débordement. Il y en a qui sont déjà interpellés et arrêtés chez nous.
Cette disposition-là va continuer tous ces jours-ci, parce que c'est après un jour ou deux jours, il y a encore un groupe qui appelle à manifester.
Ces dispositions tiennent compte de la menace interne et on demande à la population vraiment de ne pas céder à la manipulation.
Je rappelle que ces manifestants dénonçaient ou dénoncent le silence des chancelleries occidentales face aux tueries dans la partie est du pays. Pascal Kiambala, journaliste à la radio Biwane, émettant depuis la ville de Kinshasa. Ces manifestations, selon vous, sont-elles justifiées?
En fait, justifiées ou pas, mais j'aimerais signaler un élément. Il y a un ras-le-bol au sein de la population. On doit éviter d'arriver au point de non-retour. Chaque jour, nous sommes à l'ère de Antique. Chaque jour, les Congolais, dans leur téléphone, ils reçoivent des vidéos, des messages montrant comment on tue des Congolais dans la partie est du pays. J'aimerais soulever l'élément. Il faut combien de litres de sang pour que la communauté internationale comprenne que la guerre dans la partie est du pays doit cesser. Madame Kelly, on tue des Congolais dans la partie est du pays. Je veux vous dire une chose. Vous savez, il y a une résolution 1757 des Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui avait institué à l'époque un tribunal spécial des Nations Unies pour les Libans. Combien de personnes étaient tuées? 22 personnes, y compris le premier ministre Rafik Hariri. Imaginez-vous, 22 personnes des Nations Unies sont arrivées à créer un tribunal spécial pour les Libans. Mais en RDC, il y a beaucoup de morts. Il y a beaucoup de morts. On doit arriver à mettre fin. On n'a pas besoin de morts. On a besoin de développement social, économique en RDC. Est-ce que les Nations Unies sont incapables de mettre fin à cette guerre au niveau de, dans la partie est du pays? C'est faux. C'est vrai. Les Nations Unies ne sont pas incapables. Donc, aujourd'hui, c'est un sentiment de ras-le-bol. Mais je condamne la violence. On ne peut pas utiliser la violence, attaquer aux diplomates, aux ambassades. Non. Nous devons manifester pacifiquement. Mais il faudra comprendre, c'est ras-le-bol. Parce qu'aujourd'hui, il y a des Wazalendo qui sont là. Il y a des Maïmaï qui sont là. Les Congolais comprennent qu'il faut en découdre maintenant avec le Rwanda l'option militaire. Or, on doit arrêter. Est-ce que toutes ces organisations au niveau monde, au niveau planétaire ici sont incapables d'arrêter cette guerre? Regardez les déplacés à Kanyarushira. J'ai vu une fille d'âge, je ne sais pas si le nom c'est Marie, qui a envie de rentrer chez elle pour étudier. Les enfants n'étudient pas. Les mamans déplacées, des papas. On tue des gens. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Je parle en tant que Congolais, en tant qu'un être humain. Est-ce qu'il faudra encore davantage, combien de litres de sang pour qu'on comprenne qu'il faut arrêter cette guerre-là? Madame, vous êtes au courant de cette information aussi. Vous savez, à l'époque, sous Barack Obama, les Américains avaient envoyé des forces spéciales pour arrêter Joseph Kony. Arrêter Joseph Kony. Imaginez-vous cette décision pareille. Donc, il y a cette possibilité-là d'arrêter cette guerre. Madame, pourquoi les Nations Unies ont été créées? Quels sont les objectifs des Nations Unies? C'est pour la paix. Les Nations Unies ont été créées pour la paix, la sécurité et la coopération internationale. Entre nous, les États, nous devons entretenir de bonnes relations. En cas de conflit, c'est les Nations Unies qui viennent pour régler ces conflits. Mais les Nations Unies ne peuvent pas laisser comme ça, parce que les gens meurent. Les gens meurent.
Mais les Nations Unies interviennent aux côtés des FARDC pour neutraliser le M23. La communauté internationale et même les Nations Unies appellent au dialogue pour mettre fin à cette situation dans le Nord Kivu.
Oui, madame.
Mais Kinshasa n'est pas prêt, apparemment. La RDC n'est pas prête pour le dialogue.
Oui. La position officielle de la RDC, c'est le refus de ce dialogue. Mais j'aimerais dire, est-ce que les Nations Unies sont... Je pose cette question aux auditeurs et aux diplomates. Est-ce que les Nations Unies sont incapables de mettre fin à cette guerre-là? Il y a des intérêts, on connaît. Le Rwanda, c'est un pays enclavé. Vrai ou faux? Le Rwanda, c'est un pays enclavé. D'où viennent les armes? D'où viennent les armes que le M23, pourquoi les troupes rwandaises entrent en RDC pour combattre? C'est ça le vrai problème, des vraies questions. Et qui a commencé la guerre? Est-ce que c'est la RDC ou bien c'est le Rwanda? Il y a des vraies questions qu'on doit poser. Parce que moi je vois mal, je me pose la question, il faut combien de litres de sang pour que cette communauté internationale réagisse positivement? On a besoin de la paix. C'est un des objectifs des Nations Unies. La paix, la sécurité et la coopération internationale. C'est la triptyque onusienne. Vous savez quoi? La partie est du pays risque de devenir le Vietnam congolais pour des soldats étrangers, des soldats rwandais. Parce que je sens quelque chose. Les Congolais veulent en découdre. Alors qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas lancer des appels pour la guerre. On doit lancer des appels pour la paix, la construction de ponts et non des barrières. C'est ça le vrai problème. On doit avoir, vous savez, cette guerre me fait penser à beaucoup de gens qui ont été condamnés. Je pense à Pol Pot, je pense au Khmer Rouge, je pense à beaucoup de criminels de guerre, à beaucoup de gens. Et aussi, pourquoi il n'y a pas un tribunal pénal international pour la RDC? C'est toutes ces injustices-là. Et c'est un ras-le-bol pour les Congolais. On ne s'occupe pas des Congolais. Les chefs de l'État, où est-ce qu'il n'a pas dit qu'il y a agression? Où est-ce qu'il n'a pas dit? Nations Unies, Union Européenne, partout on connaît qu'il y a la guerre. C'est une sale guerre. On tue les gens inutilement, injustement. Il faut qu'on privilégie la paix.
Alain Botoko, journaliste photographe indépendant, patron du média info-vert.net. La situation reste quand même un peu tendue à Kinshasa où depuis samedi de la semaine dernière, des manifestants ciblent des représentations diplomatiques et des organisations internationales. Ils accusent les États qu'il représente de soutenir le Rwanda, lui-même soupçonné d'appuyer les rebelles du M23 engagés dans des combats contre l'armée congolaise dans la province du Nord Kivu. Comment vous analysez cette situation, ces manifestations, cette population qui s'élève pour s'attaquer aux représentations diplomatiques?
Oui, Madame Kelly, je vais commencer là où je devais finir. Pour dire à mes compatriotes qui me suivent partout au monde, parce que le mouvement n'est pas seulement ici à Kinshasa ou dans quelques villes. À Paris, il y a eu une grande marche hier, j'ai suivi toute la nuit, mais aussi dans d'autres villes du monde, dans d'autres capitales, et le mouvement va continuer. J'en appelle vraiment à ce que tout le monde se mette dans la rue et qu'on dénonce ça, parce que trop, c'est trop. Le sang a trop coulé et il faut que ça s'arrête. C'est du sang humain. Et moi, vous savez, c'est les questions environnementales qui me hantent tout le jour. Vous savez, nous perdons énormément la biodiversité dans cette partie du pays. Le Belgelès, au Congo, a 1 million d'éléphants, d'individus éléphants. Et aujourd'hui, ils sont à moins de 4 500. Et il ne peut pas y avoir de forêts sans éléphants parce que ce sont les germoires naturelles. Et aucun seul Congolais ne peut accepter. C'est depuis que nous sommes, en fait, moi, c'est une trentaine d'années que je suis en train de suivre ça. J'étais tout petit. Et à la radio Capi, nous dénonçons ça depuis 15 ans. Donc, nous sommes dans les studios que nous parlons, mais aussi dans d'autres médias. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Vous imaginez le secrétaire général des Nations Unies qui dit que les rebelles, que Kagame donne des armes, des chars, sont plus armés que le militaire de l'ONU et de la RDC et qu'ils ne peuvent pas chercher des solutions pour ça. Et tous les États sont en train de regarder ça avec des gros yeux sans rien dire à Kagame qui malmène tout le monde. Je voudrais vous signaler quelque chose, et ça je le dénonce parce que c'est depuis tout le temps, ça fait une douzaine d'années que je suis dans X, et que vous faites l'ex et Twitter, et tous ces derniers temps ici, on m'a limité. Quand je cherche à lier Kagame pour le lui dire avec d'autres présidents, on me limite. Donc c'est-à-dire qu'il y a un complot international qu'il faut dénoncer, et moi je crois fermement que c'est l'occasion qu'il faut profiter et dénoncer une fois pour toutes que ça s'arrête parce que...
Dénoncer par des casses?
Non, madame. Vous savez, dans ce pays, nous avons, tout à l'heure, là, j'ai introduit par le parti UDPS qui était toutes les dernières années incarné par, avant qu'une mère, le suffixe de l'imité que nous appelions Chichi. Tu sais qu'il nous a appris de faire la résistance non violente. Et je crois que le Congo de Tu sais qu'il, il ne peut pas se donner le luxe de faire la violence. Il faut être dans la rue. Et je demande à tous nos citoyens, là où ils sont, dans tout le pays du monde, qu'ils bougent, qu'ils entrent dans le riz, pas pour casser, ne cassez rien, chers compatriotes congolais. Nous devons dénoncer ce génocide qui se fait. Nous perdons autant de millions d'individus, non pas seulement des humains, mais aussi les êtres très chers, comme les espèces endémiques, le gorille, les éléphants, le bonobo, tout ça. C'est parce que les rebelles sont dans la forêt. Et les poissons, il y a un rapport d'un spécialiste de l'ICSN qui est l'envoyé de l'extérieur, celui qui est le dirigeant du parc de Virunga, qui dit mais ces rebelles et ces pays voisins, ils ne peuvent pas lâcher ça parce qu'ils tirent des millions de dollars, trop c'est trop. Comment les rebelles peuvent avoir des chars de combat? Comment les rebelles peuvent avoir, ils ont même acheté des anti-chars, des anti-avions, parce que maintenant s'il y a un avion d'école, ils vont bombarder. C'est-à-dire que ça vient des États-Unis, ça vient de la France, ça vient de la Grande-Bretagne, ça vient de Londres. Donc, alors, dans ces conditions-là, nous ne pouvons plus jamais accepter ça. Nous, trop, c'est trop. Et quand le monde dira à Kagame qu'il arrête, il va arrêter, il ne sera plus continu.
Mais plusieurs fois, les États-Unis, la France, ces pays ont demandé à Kagame d'arrêter de soutenir les rebelles du M23.
Non, madame, c'est de l'hypocrisie. Ils parlent pour parler, mais quand ils vont prendre des sanctions, pourquoi on ne sanctionne pas Kagame? Parce que dans tout le monde, dans toute l'humanité, quand quelqu'un marche contre les lois du monde, nous sommes partisans de l'ONU. Nous faisons partie de Nations Unies. Et un des principes des Nations Unies, c'est protéger les frontières des autres. Kagame entre au Congo comme il veut, il sort comme il veut, il peut venir quand il peut tuer qui il veut. Est-ce que nous pouvons continuer à vivre comme ça? Dans ce monde civilisé, dans ce monde où le changement climatique menace énormément. Et moi, je voudrais rappeler, parce que moi, je suis expert dans les questions climatiques, je voudrais rappeler au monde qu'il n'y a qu'au Congo où le monde peut encore espérer dans la lutte contre le changement climatique. Les forêts du bassin de l'Amazonie sont en train d'être coupées, ont été déjà coupées à un grand nombre, parce qu'ils ont mis le soya, ils ont mis de cultures. Le Congo a encore des forêts vierges, des forêts primaires, donc il faut qu'on protège le Congo, et je crois que c'est protéger l'humanité, mais on ne peut pas détruire tout un pays, toute l'humanité à cause d'un seul homme, avec quelques groupes d'hommes d'affaires étrangers, américains, français, libanais, tout ça. Nous n'accepterons plus jamais ça.
John Kanyunyu, journaliste et correspondant de la voix de l'Allemagne, Deutsche Welle. Au Nord Kivu, les manifestants exigent des pays occidentaux qu'ils exercent une pression sur le Rwanda afin que Kigali ou Paul Kagame cessent de soutenir le M23. On a lu plusieurs communiqués de certains pays occidentaux et même de l'ONU demandant à Kagame de cesser tout soutien au M23. Malgré cela, on a l'impression que le Rwanda fait la sourde oreille. Qu'est-ce qu'il faut de plus pour que le Rwanda cesse de soutenir le M23?
Qu'est-ce qu'il faut? Moi, je pense que la réponse est simple. Je vais peut-être décevoir mes co-débatteurs parce que ceux qui manifestent, c'est bien. Nous avons vécu cette expérience en 2004 quand le général Laurent Nkunda avait pris Bukavu. Il y a eu des manifestations spontanées organisées dans plusieurs villes du pays. Et du coup, la communauté internationale s'était interposée et Laurent Nkunda et sa troupe étaient obligés de quitter la ville de Bukavu. Moi, je pense que les manifestations, c'est bon bien. Mais le problème, c'est que ces manifestants, est-ce qu'ils savent, ils comprennent ce qu'on appelle l'hypocrisie dans la diplomatie, hein? Je pense que pour trouver une solution à cette guerre qui n'a fait que durer dans la partie orientale de notre pays, c'est question de se doter d'une armée forte, dissuasive. Nous pouvons marcher, nous pouvons manifester, nous pouvons casser tout ce qu'il faut, mais tant que notre armée ne sera pas organisée et rendue forte et dissuasive, il n'y aura aucune solution. On pourra prier, on pourra gêner, on pourra, je ne sais pas, faire tout ce que nous voulons, mais tant que nous n'aurons pas une armée forte et dissuasive, tout cela sera vain. Ce que moi je pense, c'est pendant qu'il y a d'autres pays qui décident de nous venir en aide dans cette guerre, il y a aussi la SADC qui vient maintenant de rentrer dans la danse. Ce qu'il nous faut, c'est nous réorganiser nos troupes, réorganiser l'armée et doter cette armée des moyens, des matos qu'il faut pour que nous puissions faire attendre notre voix. Parce que tant que nous serons en train de pleurnicher, tant que nous serons à genoux, personne, encore je dis personne, ne pourra entendre notre voix. Ce qu'il faut faire, tous ces jeunes-là qui manifestent à Kinshasa, tous ces jeunes-là qui ont décidé de manifester pour dénoncer ce qui se passe ici dans la partie est de notre pays, je pense qu'ils pourront bien le faire en décidant d'intégrer l'armée et puis venir dans la partie est combattre le M23, elle leur paraît. Mais le fait à Kinshasa casser ce qu'on peut casser ne nous aidera à rien. Par contre, ceux-là qui pouvaient peut-être avoir la bonne volonté de nous aider, la bonne volonté de plaider notre cas, peuvent aussi se dire, mais comme ils ont décidé de casser nos biens, ils ont décidé de s'attaquer à nos biens, à nos représentations, ils peuvent aussi changer d'avis. Je pense que nous devons revoir notre façon de faire. Par exemple, les manifestants, ils peuvent se décider aujourd'hui d'aller devant l'ambassade des États-Unis, par exemple, avec des calicots, dire non au massacre, non au génocide, plus de 2 millions de morts depuis 96, c'est assez, sans rien casser. Et là, notre voix peut être entendue et peut aller trop loin. Mais quand on se met à casser et à piller même, en tout cas, ça suit notre image, et ceux-là qui pouvaient avoir la volonté de nous aider ne pourront pas le faire. Et bref, organisons nos unités pendant que nous avons des pays amis qui décident de nous soutenir, par exemple l'Afrique du Sud qui a annoncé envoyer autant de militaires, il y a le Malawi qui est là, il y a la Tanzanie qui est là dans le cadre de la force de la SADC. Prenons, utilisons cette occasion pour nous organiser et doter notre armée de tout ce qu'il faut. Et surtout, soigner cette armée-là. Il faut revoir à la hausse les salaires des militaires, la solde des militaires. Comme ça, ils savent que quand ils combattent, ils sont condamnés à la mort parce qu'ils défendent la patrie, mais sachant que derrière eux, il y a leur famille, les enfants qui ne seront pas qui ne seront pas jetés dans la rue, leurs femmes, les veuves qui ne seront pas laissées abandonner à la solde de la rue comme femmes de la rue femmes de joie. Je pense que c'est ça. Nous devons réfléchir plus loin, aller plus loin pour essayer de nous faire respecter dans les années qui viennent, parce que plus de 20 ans ou plus de 2 décennies, c'est assez, cher Kelly.
Alors, John Kanyounou, puisque vous parlez de la réorganisation de notre armée, selon vous, c'est cela qui permettrait, entre autres, de mettre fin à cette guerre dans la partie est de la RDC. Le Conseil supérieur de la défense plaide pour la levée du moratoire sur la peine de mort concernant des militaires qui se rendraient coupables de trahison dans la guerre entre les forces gouvernementales et les M23 soutenues par l'armée rwandaise. Nous avons appris qu'il y a eu plusieurs arrestations ces dernières heures dans le Nord Kivu. Plusieurs officiers militaires ont été arrêtés. Pensez-vous, John Kanyounou, que la levée du moratoire sur la peine de mort pourrait aider à réorganiser notre armée, comme vous l'avez dit tout à l'heure?
Je ne pense pas, je suis désolé, je ne pense pas, parce que et là, c'est comme un médecin ou un infirmier qui veut baisser la fièvre en cassant le thermomètre. Avant de penser à la levée du moratoire sur la peine de mort, je pense que le Conseil supérieur de sécurité, de défense, allait commencer par faire l'introspection. Qu'est-ce qui ne va pas au juste? Parce qu'il ne faut pas s'attaquer aux conséquences. Il devait commencer par s'attaquer à la cause. Est-ce que ceux qui sont pris pour traître, entre guillemets, pourquoi ils le font? Pourquoi? Est-ce que les militaires qui combattent sur le terrain ont tout ce qu'il faut pour bien se comporter sur le champ de bataille? Est-ce que tous les moyens décaissés par le gouvernement arrivent à destination? Est-ce que il y a tant de questions qu'on doit se poser avant d'en arriver là. Et avec nous savons tous comment notre justice fonctionne. On risque d'assister maintenant à des règlements des comptes. On risque de tuer les innocents et laisser les vrais traîtres continuer à trahir le pays. Je pense que avant d'en arriver là, il fallait que le Conseil supérieur de la défense, essayer un peu de voir tout ça, faire ce qu'on appelle inspection, poser des questions à certains militaires, poser des questions à certains officiers supérieurs et généraux. Pourquoi vous n'arrivez pas à gagner cette guerre? Qu'est-ce qui vous manque pour que on en arrive à mettre, à bouter dehors l'ennemi? Parce que il est connu et le gouvernement congolais accuse le Rwanda de soutenir le M23. Et qu'est-ce qui nous manque, nous, à bouter le Rwanda dehors avec son groupe rebelle le M23? Je pense qu'il fallait commencer par là et non, du coup, on se réveille et puis on se dit, on lève le moratoire sur la peine de mort pour punir les traites. Bien sûr, les traites peuvent être arrêtées et aussi auditionnées parce que on peut voir les traîtres là, mais il y a aussi d'autres traîtres derrière. Je pense que si on décide, par exemple dans la guerre, quand il y a des capturés et vous décidez de les tuer, comment est-ce que vous aurez des informations sur les rebelles, sur le mouvement, sur comment ils se ravitaillent? Je pense que peut-être, ça, je ne sais pas le contexte, je ne sais pas savoir le contexte dans lequel cette décision a été prise ou cette question a été levée, mais je pense qu'avec avec l'expérience que nous avons, il est tôt de lever ces moratoires-là, mais je pense pas aussi que le monde civilisé pourra nous laisser faire.
Merci.
Parce qu'on sait que il y aura beaucoup d'innocents qui seront tués parce que accusés de traîtrise. Voilà.
Pascal Bamanaï, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative du Conseil supérieur de la défense?
Oui, en fait, j'ai réfléchi, mais quand vous lisez l'article 61 de notre Constitution, la Constitution dispose en aucun cas, et même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence aura été programmé, conformément aux articles 85 et 86 de la présente de la Constitution, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés, notamment le droit à la vie. Qu'est-ce qui motive le Conseil supérieur de la défense à solliciter la restauration ou bien la levée du moratoire? C'est qu'il y a des vrais problèmes au niveau de la défense nationale. Ce sont des questions. Vous savez, trahir un pays, c'est comme si vous avez trahi votre propre famille. C'est là le vrai problème. C'est un sujet, c'est un débat où le Congolais devait réfléchir là-dessus. Vous savez, vous êtes au front. Vous êtes en train de combattre les ennemis. Mais parmi vous, il y a un traître. Et qu'à travers ces informations, on arrive à occuper des territoires. C'est qu'on a tué des gens. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à réfléchir. Faut-il restaurer? Sur le plan de droit, il y a un barrage qui est là, c'est l'article 61 de la Constitution. Mais sur le plan au niveau de la société, quand vous scrutez les Congolais pensent que il faut restaurer la peine des morts et l'étendre même aux criminels, disons comment on dit, aux criminels en col blanc. C'est grave dans notre pays. Trahir le Congo, trahir les biens de la République, faire n'importe quoi est devenu un jeu simple. Vous trouvez ça normal, madame? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons poser des vraies questions. Vous savez, en Chine, la Chine applique la peine de mort. Aux États-Unis, certains pays appliquent la peine de mort. Pourquoi? Ils ont justifié. C'est-à-dire que, vous savez, l'objectif de la peine, c'est à pousser les gens, de la peine, c'est pousser les gens à ne pas à avoir horreur ou à peur de commettre des infractions. Mais nous, ici, le Conseil supérieur de la défense demande la restauration par rapport à la trahison. Est-ce que faut-il restaurer la peine des morts contre les traîtres? C'est ça la vraie question. C'est une question à se lever peut-être au niveau du Parlement, les députés vont en discuter et voir j'ai vu des gens parler des sanctions alternatives, on peut condamner quelqu'un à perpétuité, oui, mais c'est à nous de voir, de discuter, mais il y a un problème, l'infiltration est à la base de beaucoup, la trahison est à la base de beaucoup de choses dans la partie est du pays. Pourquoi? Pourquoi cette infiltration? Pourquoi la trahison? Et comment on y arrive? Donc, aujourd'hui, c'est une vraie question des sociétés que nous devons nous poser. Si ailleurs, voler de l'argent, vous passez, c'est la peine capitale, et en RDC, qu'est-ce que les Congolais pensent là-dessus? Donc, ce sont des vraies questions, c'est une des questions essentielles que nous devons nous poser dans notre pays. Parce que, à voir ce qui se passe dans la partie est du pays, à voir tous ces gens-là qui bénéficient, tous ces gens-là qui commettent des crimes graves contre les pays. C'est très grave dans notre pays. Il faudra lever, pour moi particulièrement, moi je soutiens qu'il faudra lever ce moratoire et l'étendre aussi contre les criminels en colbas.
Ne faudrait-il pas craindre des règlements de comptes comme l'a soulevé John Kanyunyu?
Vous savez, le règlement des comptes, tout simplement, vous savez, moi j'apprécie la justice militaire. La justice militaire suit le droit, au-delà de tout ce qu'il y a comme critique, mais nous avons les droits de la défense qui seront garantis, les droits des partis qui seront garantis. C'est-à-dire que pour nous, qu'est-ce que nous voulons de notre pays? C'est cela. Nous voulons un pays des traîtres ou nous voulons des pays, un pays des hommes dignes? C'est cela. Soit nous aurons des pays des traîtres, des gens qui vont, comme on dit à Kinshasa, tout le kakaramboka. Non, on n'a pas besoin de tels slogans. Nous voulons un pays des hommes dignes. J'aimerais soulever un élément par rapport à la justice. Je regarde les diplomates onusiens. Le 14 février 2005, on a tué 22 personnes au Liban, à Beyrouth. Les Nations Unies ont institué un tribunal pénal international. Pourquoi pas on les fait aussi pour la RDC? Ne pas les faire, c'est un signe qu'il y a des complices au niveau international. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si la RDC estime que il faudra nous appliquer, aller au-delà, faire appliquer nos sanctions. D'ailleurs, c'est libre de le faire.
Alain Botoko, votre avis sur la levée du moratoire sur la peine de mort?
À des grands mots, des grands remèdes. Pour une solution durable sur la question de l'Est, Madame Kelly, moi je propose ici. Un, il faut une armée d'au moins 1 million de jeunes gens qui sont célibataires, qui ne s'occuperont que de nos frontières et qui pourront sécuriser ce pays. Et je ne vois pas Kagame, Museveni, je ne sais pas quel président qui aura autant de millions de militaires qui vont faire face à ces jeunes gens. Et d'aider, il faut que nous comprenions, il faut que notre gouvernement comprenne que nous sommes dans un état d'urgence. Il ne faut pas que le gouvernement traîne à sortir. Le président a été élu à majorité écrasante. Les Congolais lui ont donné confiance. Il ne faut plus qu'il y ait de manœuvres politiques pour retarder les choses. Il faut un gouvernement de 18 personnes. Et avec un ministre de défense très prêt à lui-même à se sacrifier et sacrifier tout ce qu'il faut comme argent, comme moyen pour donner à nos militaires pour sécuriser l'est de notre pays. Mais aussi, il ne faut pas qu'on minimise cette peine de mort. J'ai suivi très cher collègue John parler que nous sommes dans un état civilisé, mais il n'y a pas un état civilisé plus que les États-Unis. Beaucoup d'États aux États-Unis appliquent cette peine et les choses marchent bien. Et pourquoi cette peine? Pourquoi? Parce que trop c'est trop. Les Congolais sont
vous pensez que ça va dissuader les traîtres et
Pascal l'a parlé avec un peu des mots qui tolèrent, mais tout le pire de ce pays, il faut qu'il passe aussi par la peine de mort, parce que ce pays ici détruit à l'état où il est, et vous prenez 1 million, 2 millions, 10 millions, 100 millions dans vos poches et vous partez avec, on vous laisse vivre. Non, faisons comme la Chine le fait, et je crois que tout doit s'arrêter, on va recommencer. Et d'ailleurs, moi je l'ai toujours dit, pourquoi il y a ces désordres à l'est de notre pays? C'est parce qu'il y a des pillages. Si on canalise l'argent, on fait sortir l'argent, l'IGF travaille, la Cour des comptes travaille comme il se doit, et toute la justice travaille, et le pays fonctionne comme il se doit, il faut former un gouvernement tout de suite et mettre les hommes capables, pas les pires, les hommes capables pour changer la donne. Et je crois qu'il y a espéré dans ce pays. Et
merci.
Je voulais juste dire ceci, et que notre pays est visé de partout et nous devons être intelligents, réfléchis et travaillons ensemble, oublions nos petits différends, et en étant de guerre, vous voyez, en Ukraine, est-ce qu'il y a l'opposition, en Russie, il y a l'opposition, travaillons pour sauver ce pays, il n'y a que ce Congo qui peut nous contenir, qui peut nous donner l'essentiel de notre vie. Moi, j'ai voyagé le monde, je n'ai jamais accepté de rester ailleurs, il faut rester dans le pays, parce qu'ailleurs c'est pas votre pays et on va vous malmener. Voilà.
Conséquence des affrontements entre les FRDC et la rébellion du M23 soutenue par par le Rwanda. C'est la situation humanitaire qui reste très très préoccupante dans le Nord Kivu. Au moins 630 000 personnes déplacées du territoire des Masisi sont privées de l'aide humanitaire. Ceci ressort du dernier rapport de OCHA couvrant la période du 16 janvier au 12 février. La plupart des personnes déplacées victimes des affrontements vivent dans des conditions précaires et n'ont pratiquement pas accès à la nourriture, à l'eau potable, aux soins de santé et autres besoins fondamentaux. Depuis début février, des milliers d'habitants des Sake ont été aussi contraints de fuir vers Goma. John Kanyunyu, des déplacés qui vivent dans des conditions très précaires. Votre lecture de la situation.
Merci beaucoup pour la question. Et avant de répondre à votre question, je voulais revenir sur un peu quelques secondes sur le monde civilisé. Je dis ceci, ailleurs, que ce sont aux États-Unis, comme l'a souligné mon co-débatteur, ils savent comment ça se passe. Mais je ne pense pas que chez nous, ils vont accepter le moratoire sur la peine de mort soit levée. Là, il peut me croire, mais si peut-être le monde a changé, j'espère que ça peut, le gouvernement peut le faire. Et pour revenir à votre question, pour les conséquences, comme je l'ai dit dans mon introduction, il y a des milliers de déplacés dans la ville de Goma, notamment Mugunga, Bulengo et d'autres quartiers. Nos compatriotes traversent des moments très difficiles. Donc, j'en appelle aux hommes de bonne volonté.
John Kanyunyu? Allô, John Kanyunyu? Alors, je pense qu'on a un petit souci avec sa ligne téléphonique. On va essayer de le rappeler. Pascal Kambala, journaliste à la radio Bio Animeton depuis Kinshasa. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation humanitaire très préoccupante? On a l'impression, on a l'impression que le gouvernement est presque absent. Ils sont abandonnés à leur triste sort.
Oui, le gouvernement n'a pas abandonné. Mais la question, il faut se poser, qui va payer toutes ces conséquences? Toutes ces conséquences créées, vous, on puisse avoir des déplacés. Je pense encore à cette jeune fille mineure de Kanyaruchira, dans le camp des déplacés. Qui va payer les enfants qui n'étudient pas, des parents qui ne vont plus dans les champs? Qui va payer tout ça? C'est là le vrai problème. J'ai posé la question. Est-ce que les Nations Unies sont incapables, l'ONU, les conseils de sécurité, est incapable de mettre fin à cette guerre-là? Non, c'est ça le vrai problème. C'est honteux pour l'humanité, 21e siècle. On a une guerre qui est entretenue, une guerre qui est voulue. C'est anormal. La population qui se déplace, les gens qui meurent de faim, les gens qui ne travaillent pas. Le gouvernement a des moyens pour soutenir toutes ces populations-là. Mais il y a un vrai problème. Qui va payer? Pourquoi? En fait, on n'a pas... soulevons cet élément ici des rapports MAPI. Tous ces rapports d'experts des Nations Unies. On en fait quoi? On garde pour l'histoire? On va le mettre dans les archives? Non, il y a un vrai problème. Les gens doivent regarder le problème en face et trouver des solutions pour que les populations regagnent leur territoire, regagnent leur village et travaillent en paix comme ça. Donc le vrai problème de cette question dans l'est du pays, c'est trouver les solutions. Il faut que les Nations Unies arrivent à mettre fin à cette guerre. Et les Nations Unies ont tous les moyens. Je dis, tout le moyen en un jour mettre fin à cette guerre et la paix revient au niveau de la partie est du pays. Ne pas le faire, c'est une honte pour les Nations Unies, c'est une honte pour toutes ces organisations régionales ou sous-régionales qui sont intéressées par rapport à cette guerre ici, par rapport à cette violence. Les populations meurent injustement, on tue la population injustement, les gens sont traumatisés, trop de stress, les gens, c'est anormal voir des mineurs sans parents.
Merci.
Des gens qui espèrent par rapport à leurs parents. Donc aujourd'hui, la question c'est ce qui se passe dans la partie est du pays. C'est une honte aujourd'hui pour toutes, honte pour les Nations Unies.
Merci.
Or, les Nations Unies ont tous les moyens pour mettre fin à cette guerre.
Merci Pascal Kambala. La réalisation me signale que John Kanyunyu est en ligne. John Kanyunyu?
Oui, je suis en ligne.
Alors, on a été coupé tout à l'heure. Hein. Je crois que c'est un problème des réseaux. On est en train de parler de la situation préoccupante, la situation humanitaire au Nord Kivu.
Oui, je disais ceci. Cette guerre qui se vit ici a occasionné le déplacement de plusieurs personnes, donc des milliers. Il y a tout ça, comme vous l'avez souligné, il y a presque tout ça qui s'est vidé. Le problème sérieux ici, c'est que certains déplacés n'ont pas de famille d'accueil ici. Et ils sont obligés de passer nuit à la Belle Étoile. Tous les camps de déplacés aux environs de Goma sont pleins. Il leur manque de tout. Donc, ils n'ont pas de bouffe, ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont pas de l'eau potable, comme je l'ai souligné tantôt. Ils n'ont pas de médicaments. Donc, j'en appelle aux organisations humanitaires, internationales et locales même, aux églises, aux gens de bonne volonté, pour qu'ils viennent en aide ces gens. Parce que, à l'allure où vont les choses, nous risquons de vivre la résurgence du choléra dans la ville de Beni, dans la ville de Goma, excuse-moi, parce que nous apprenons que les déplacés s'approvisionnent en eau au lac, donc l'eau non traitée, et ça risque d'être une catastrophe, comme c'était le cas en 1994, quand il y avait des réfugiés rwandais qui s'étaient déversés sur Goma et ses environs.
Merci John Kanyunyu. Alain Botoko, journaliste, photographe indépendant, patron du média info-verte.net. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour ces nombreux déplacés qui sont sans aide aujourd'hui?
Oui, madame, la situation est catastrophique. C'est pour ça qu'il faut une solution d'urgence. Il faut que ça s'arrête.
Quelle est cette solution, Pio?
La solution, c'est que il faut que la communauté internationale comprenne, une fois pour toutes, que Kagame n'est pas au-dessus de toute l'humanité et qu'ils doivent, s'il ne cesse pas avec ce qu'il fait, il faut qu'il soit sanctionné. Et moi, je ne vois, s'il n'y a pas de munitions qui viennent des États-Unis, de tous ces pays-là, Kagame ne fera plus rien. S'il n'y a pas d'armes, s'il n'y a pas de chars, il ne fera plus rien. Il va fuir de lui-même et il va laisser notre pays et les populations du Rwanda et du Congo vivre en paix. Oui, mais aussi le gouvernement, j'interpelle encore pour la dernière fois le gouvernement, le président Tshisekedi, qu'il mette en place un gouvernement qui prend en charge toutes ces questions d'urgence qui sont dans le pays. On a trop de questions d'urgence, nous n'avons pas le temps à perdre dans le combiné politique et tout ça. Le peuple lui a fait confiance, il a toute la légitimité, il faut un gouvernement pour prendre en charge ces hommes, ces femmes, parce que le dernier camarade l'a dit tout à l'heure là, et s'il y a choléra dans cet endroit, dans ces endroits là, j'ai peur, il y aura des morts en catastrophe, et évitons ça, ce peuple de l'Est a trop souffert. Trop, c'est trop. Nous devons faire quelque chose. Et aussi des organisations internationales. Où sont ces organisations? Il faut que ça, que la solidarité internationale travaille et que ces hommes, ces femmes soient considérés. Nous voyons en Ukraine, nous voyons en Palestine, nous voyons comment les gens se poumonnent, comment les gens se tracassent. Il faut que ce soit aussi pour le Congo, pour les Congolais, parce que nous sommes tous des êtres humains.
Voilà. Merci Alain Botoko. Merci cher frère d'avoir pris part à la tribune de ce soir. Merci également à tous ces auditeurs qui ont suivi cette émission. Bon week-end chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.